Oui. Je parlais tout à l'heure de... du bouton. On doit bien avoir comme ça une petite affaire, petite chose à faire avec avec la façon dont on appelle quelque chose, un organe. Oui. Le clitoris, pour l'appeler par son nom, est quelque chose que, comme un point noir dans cette affaire. Je dis point noir, métaphorique ou pas. Ça, d'ailleurs, quelques échos dans le comportement qu'on ne note pas assez de ce qu'on appelle une femme. C'est très curieux qu'une femme s'intéresse tant au point noir, justement. C'est la première chose qu'elle fait à son garçon. C'est de lui sortir les points noirs. Est-ce que c'est une métaphore de ce que son point noir à elle, elle voudrait pas que ça tienne tant de place. C'est toujours le bouton de tout à l'heure du corps tourné. Parce qu'il faut tout de même pas confondre. C'est évident que de temps en temps, il y a... Il y a des femmes qui doivent procéder à l'épouillage, comme les singesses. Mais c'est quand même pas du tout la même chose d'écraser une vermine ou d'extraire un point noir. Oui. Il faut que nous continuions à faire le tour. Et l'imagination de d'être le rédempteur dans notre tradition au moins est le prototype de ce que, ce n'est pas pour rien, que je l'écris, la perversion. C'est dans la mesure où il y a un rapport de fils à père, et ceci depuis très longtemps, que Sur lui, cette idée loufoque du rédempteur. Freud, quand même, essayer de se dépêtrer de ça, de sadomasochisme. Seul point auquel il y a un rapport supposé entre le sadisme et le masochisme. Le sadisme est pour le père, le masochisme est pour le fils. Ça n'a entre eux aucun, strictement aucun rapport. Il faut vraiment croire. Que ça se passe comme ici, savoir qu'il y a une droite infinie qui pénètre dans un temps, je pense que je fais assez image comme ça. Il faut vraiment croire à l'actif et au passif pour imaginer que le sadomasochisme est quelque chose d'expliqué par une polarité. Freud a très bien vu quelque chose qui est beaucoup plus ancien que cette mythologie chrétienne. C'est la castration. C'est que le phallus, ça se transmet de père en fils. Et que même ça comporte quelque chose qui annule le phallus du père. Donc le fils ait le droit de le porter. C'est essentiellement de cette façon qui est une transmission manifestement symbolique que Freud se réfère. Que Freud se réfère dans cette idée de la castration. C'est bien ce qui m'amène, à poser la question des rapports du symbolique et du réel. Ils sont fort ambigus, au moins dans Freud. C'est bien là que se soulève la question de la critique du vrai. Qu'est-ce que c'est que le vrai, sinon le vrai réel? Et comment distinguer Sinon, à employer quelques termes métaphysiques, le Hecht de Heidegger, comment distinguer le vrai réel du faux? Car Hecht est quand même du côté du réel. C'est bien là que bute toute la métaphysique de Heidegger dans ce petit morceau sur Est. Il avoue, si je puis dire, son échec. Le réel se trouve dans les embrouilles du vrai. Et c'est bien ça qui m'a mené à l'idée de nœud qui procède de ceci, que le vrai s'auto-perfore du fait que son usage crée de toute pièce le sens. Ceci de ce qu'il glisse, de ce qu'il est aspiré par l'image du trou corporel dont il est émis, à savoir la bouche en tant qu'elle suce. Il y a une dynamique du regard. Centrifuge, c'est-à-dire qui part de l'œil. De l'œil voyant, mais aussi bien du point aveugle. Elle part de l'instant de voir et là pour point d'appui. L'œil voit instantanément, en effet, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Par quoi il redouble ce qu'on appelle l'espace dans l'image. Il n'y a aucun espace réel. C'est une construction purement verbale qu'on a épelée en trois dimensions, selon les lois qu'on appelle ça de la géométrie, lesquelles sont celles du ballon ou de la boule imaginées kinesthétiquement, c'est-à-dire oral-analement. L'objet que j'ai appelé petit a, en effet, n'est qu'un seul et même objet. Je lui ai reversé le nom d'objet en raison de ceci, que l'objet est obstaculant à l'expansion de l'imaginaire concentrique, c'est-à-dire englobant. Concevable, c'est-à-dire saisissable avec la main, c'est la notion de dégriffe. Saisissable à la manière d'une arme, et pour évoquer comme ça quelques Allemands qui n'étaient pas du tout idiots, cette arme, loin d'être un prolongement du bras, est d'élabore une arme de jet. une arme de jet dès l'origine. On n'a pas attendu les boulets, eux, pour lancer un boomerang. Ce qui, de tout ce tour, apparaît, c'est qu'en somme, tout ce qui subsiste du rapport sexuel c'est cette géométrie à laquelle nous avons fait allusion à propos du gant. C'est tout ce qui reste à l'espèce humaine de support pour le rapport. Et c'est bien en quoi, d'ailleurs, elle s'est dès l'abord engagée dans des affaires de soufflure. Elle a fait plus ou moins rentrer le solide. Il n'en reste pas moins que nous devons faire là la différence. La différence entre la coupe de ce solide et ce solide lui-même. Et nous apercevoir que ce qu'il y a de plus consistant dans la soufflure, c'est-à-dire dans la sphère, dans le concentrique, c'est la corde. C'est la corde en tant qu'elle fait cercle, qu'elle tourne en rond, qu'elle est boucle, boucle unique d'abord, peut-être mise à plat. Qu'est-ce qui prouve après tout que la spirale n'est pas plus réelle que le rond? Auquel cas, rien n'indique que pour se rejoindre, elles doivent faire nœud, si ce n'est le faussement dit nœud borroméen, à savoir une chaîne qui engendre naturellement le nœud de trèfle et qui provient de la joie et là
et que il y a tout de même quelque chose qui n'est pas moins frappant. C'est que
ça ne fait pas nœud de trèfle pour l'appeler par son nom. Et que la question que je poserai à la fin de ce jardin-là est celle-ci. On a tout de suite, qui pour vous n'est peut-être pas évident, on a tout de suite très bien remarqué, ça ne va pas de soi, on a tout de suite très bien remarqué que si ici vous changez quelque chose, au passage, en dessous, dans ce nœud de cette, disons, aile du nœud. Vous avez tout de suite pour résultat que le nœud est aboli. Il est aboli tout entier. Et ce que je soulève comme question, puisque ce dont il s'agit, c'est de savoir si oui ou non, Joyce était fou. Pourquoi, après tout, ne l'aurait-il pas été? Ceci d'autant plus que ça n'est pas un privilège. S'il est vrai que chez la plupart, le symbolique, l'imaginaire et le réel sont embrouillés au point de se continuer l'un dans l'autre. S'il n'y a pas d'opération qui les distingue dans une chaîne à proprement parler, la chaîne du nœud borroméen, du prétendu nœud borroméen, car le nœud borroméen n'est pas un nœud, c'est une chaîne. Pourquoi? Saisir que chacune de ces boucles se continue pour chacun dans l'autre d'une façon strictement non distinguée et du même coup c'est pâle. C'est pas un privilège que d'être fou. Ce que je propose, ici, c'est de considérer le cas de Joyce comme répondant à quelque chose qui serait une façon de subler à ce dénouement.
Tel que, comme vous voyez, je suppose, ceci fait purement et simplement un rond, ceci déploie, suffit de rabattre. C'est du rabattement de ceci que résulte vite dont il s'agit d'apercevoir, c'est car
remédier à faire quoi? À y mettre
une boucle. À émettre une boucle grâce à quoi?
Le nœud de trèfle, le clover leaf, ne s'en ira pas. On n'ira pas en floche. Est-ce que nous ne pouvons pas concevoir le cas de Joyce comme ceci? C'est à savoir que son désir d'être un artiste qui occuperait tout le monde, le plus de monde possible en tout cas. Est-ce que ce n'est pas exactement le compensatoire de ce fait que, disons que son père n'a jamais été pour lui un père, que non seulement il ne lui a rien appris, mais qu'il a négligé à peu près toute chose, sauf à s'en reposer sur les bons pères jésuites, l'Église diplomatique, je veux dire la trame dans laquelle s'est développé ceci qui n'a plus rien à faire avec la rédemption qui n'est plus qu'ici bafouillage. Le terme diplomatique est emprunté au texte même de Joyce, spécialement de Stephen Hero, où Church diplomatique est nommément employé. Mais il est aussi certain que dans le portrait de l'artiste, le père parle de l'Église comme d'une très bonne institution et même que le mot diplomatique y est également présenté, poussé en avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme une, je dirais, compensation de cette démission paternelle, de cette Verwerfung de fait, dans le fait que Joyce se soit senti impérieusement appelé, c'est le mot qui résulte d'un tas de choses dans son propre texte, dans ce qu'il a écrit, et que ce soit là le ressort propre par quoi Schill le nom propre. Quelque chose qui est étrange. J'avais dit que je parlerais du nom propre aujourd'hui. Je remplis sur le tard ma promesse. Le nom qui lui est propre, c'est cela qu'il valorise aux dépens du père, c'est à ce nom qu'il a voulu que soit rendu l'hommage que lui-même a refusé à quiconque. C'est en cela qu'on peut dire que le nom propre qui fait bien tout ce qu'il peut pour se faire plus que le S1, le S1 du maître qui se dirige vers le S que j'ai appelé de l'indice petit 2, qui est ce autour de quoi cumule ce qu'il en est du savoir. Il est très clair que depuis toujours ça a été une invention qui s'est diffusée à mesure de l'histoire, qui est deux noms qui lui soient propres à ce sujet. Que Joyce s'appelait également James, c'est quelque chose qui ne prend sa suite que dans l'usage. Le fait que nous puissions en mettre comme ça des tas n'aboutit qu'à une chose, c'est à faire rentrer le nom propre dans ce qu'il en est du nom commun. Oui. Eh bien, écoutez, puisque j'en suis arrivé là à 7h, vous devez en avoir votre claque et même votre jaclaque, puisqu'aussi bien j'y ajouterai le « oh » qui sera Je réduis mon nom propre au nom le plus commun. Thank you.